André d'Hôtel, Le pays où l'on n'arrive jamais. Huitième cassette, deuxième face, page 213. Théodule revint le premier à la réalité. Il fit signe à ses amis de s'éloigner le plus doucement qu'il le pourrait, de façon à éviter de déclencher la fureur de la terrible bête qui paraissait pour l'instant se désintéresser un peu des circonstances. Jérôme et Ludovic s'étaient déjà effacés derrière l'ours et Gaspard se glissait autour de son arbre. « La camionnette !» souffla Théodule. Gaspard, Jérôme et Ludovic aperçurent la camionnette entre les arbres. On avait tourné dans la forêt en sorte qu'on était revenu non loin de la clairière. Si l'on pouvait filer jusqu'à la voiture, on s'y enfermerait. C'était la seule solution raisonnable en tout cas. Gaspard fit quelques pas avec précaution. Jérôme et Ludovic, de leur côté, s'écartèrent. L'ours demeura lourdement assis, balançant sa tête à droite et à gauche, comme s'il mélangeait des pensées. Les garçons s'arrêtèrent, osant à peine respirer. Puis ils firent quelques pas encore et s'arrêtèrent de nouveau. Théodule commandait d'un signe les départs et les arrêts. « On y va !» dit-il enfin. Tous s'élancèrent vers la camionnette avec une agilité inouïe. Comme ils étaient à 20 pas de la voiture, ils sentirent l'ours sur leurs talons. L'animal avait bondi et chacun s'attendait à recevoir tout son poids sur les épaules. Cependant, l'ours ne se livra à aucune agression. Il passa en coup de vent entre Jérôme et Gaspard, qui sentirent le frôlement de l'énorme fourrure, et il s'arrêta derrière la camionnette. Les garçons, qui voyaient presque à leur portée les portes ouvertes du fourgon, durent soudain renoncer à tout espoir. Ils stoppèrent brusquement. L'ours s'était retourné de leur côté et semblait les narguer. Ce fut à ce moment que Niklas sortit du fourré. Niklas, constatant que les garçons avaient abandonné l'endroit, revenait vers le lieu du pique-nique. Il cria « Il n'y a pas plus de cheval que… » Il eut le souffle coupé quand il aperçut l'ours qui s'était assis de nouveau et considérait les garçons frappés de stupeur. « Eh bien !» s'exclama Niklas. Pourquoi il s'exclama ainsi, lui-même ne le savait pas. La voix de Niklas était grave et profonde. Lorsque l'ours l'entendit, il se dressa soudain, puis faisant volte-face, il s'élança dans le coffre de la camionnette. Aussitôt, Théodule se précipita pour fermer les battants, Ludovic, Gaspard et Jérôme vinrent l'aider à assurer la barre de fer et à placer la goupille. Ces gestes, si simples d'habitude, se révélèrent assez compliqués car les garçons tremblaient de tous leurs membres. Aussitôt, ils s'affalèrent dans l'herbe et respirèrent profondément. Ils regardaient avec une joie immense la vallée profonde et les eaux de la Meuse. Ils ne songeaient même pas à écouter Niklas qui leur posait des questions. Lorsqu'ils eurent repris tout à fait leur sang-froid, ils eurent néanmoins beaucoup de mal à s'expliquer. Ludovic avait cru remarquer un léger collier de métal autour du cou de l'ours. Mais ce n'est pas l'usage de mettre un collier aux ours, et maintenant, il n'osait plus rien affirmer. Il n'y avait pas de doute néanmoins que ce fût un animal échappé d'une ménagerie, comme il arrive de temps à autre. Théodule se montra le plus fertile en commentaires. Il avait, dans l'aventure, recouvré tout à fait Louis et il se plaisait à entendre les inflexions de sa propre voix.
« Le Seigneur veille, » dit Niklas en souriant. « Jérôme sera devenu un héros magnanime et Ludovic, le plus paisible des enfants de toute la Belgique. Quant à Théodule, il entendra bientôt le bruit de la mer qui est à 50 lieues.
Tout cela est bien beau, dit Gaspard, mais qu'allons-nous faire de cet ours? Que faire de cet ours? Comment éviter les ennuis que promettait la possession d'un tel fauve?
Niklas, dit Gaspard,
Tu prétendais que je devais provoquer encore une fichue histoire. Eh bien, vous devez être tous contents. Mais si vous croyez que l'affaire va finir ici...
Voyons, dit Niklas, nous en sortirons facilement.
Qu'est-ce qu'on va faire de cet ours ? Insistait Gaspard. Le rapporterez-vous au commissariat ? Allez-vous mettre une annonce dans les journaux ? En attendant que vous preniez une décision, il aura 100 fois le temps de défoncer la camionnette et d'égorger le premier venu.
La situation était beaucoup moins agréable qu'on avait cru. Les parois de la camionnette ne semblaient pas, en effet, d'une solidité à toute épreuve. Gaspard proposait de courir pour chercher du renfort. 2 ou 3 chasseurs avec leurs fusils pourraient venir avec eux et Lompier préviendrait ainsi tout accident si l'on voulait transporter l'ours et aller l'enformer en lieu sûr. Niklas objecta que la bête pouvait à tout instant défoncer les panneaux et se lancer à leur poursuite. Il valait mieux sauter sur la camionnette et la mettre en route. Si l'ours s'échappait, on aurait l'avantage de faire du 80 à l'heure. Ainsi fut-il décidé. Et si tout allait bien, on fourrait l'animal dans le garage de la ferme. Niklas, avec Théodule et Jérôme, s'entassèrent sur la banquette. Gaspard et Ludovic se tinrent sur les ailes et l'on s'en alla qu'à un quart. Niklas, qui conduisait la voiture, avança avec prudence. Le voyage fut sans incident. Sans doute, fidèle à une ancienne domesticité, l'ours ne trouvait rien que de normal à la prison où il s'était lui-même précipité en entendant la voix de Niklas. On parvint à la ferme 2 heures plus tard. La voiture fut menée dans le garage et quand on eut rabattu le rideau de fer, il ne resta plus qu'à pousser des cris de joie, ce dont on se dispensa néanmoins.
« Eh bien, Gaspard, dit Niklas, tu vois que rien ne nous est arrivé et que nous sommes tranquilles maintenant. Ma plaisanterie était sans conséquence et nous nous séparerons demain comme il était convenu. L'ours nous aura simplement montré qu'il ne faut pas voir partout des monstres et des malheurs, et que chacun de nous doit retourner maintenant à ses occupations avec la joie de respirer l'air d'ici-bas. »
Tout était dit. Niklas partirait le lendemain, à la première heure, avec ses garçons. Le cheval les ramènerait à Anvers par petites étapes. Gaspard prendrait le train pour Revin. Théodule le conduirait à la gare et il s'occuperait ensuite de l'ours. On avait songé que le fauve pouvait faire partie de la ménagerie de la Cité du cinéma et de toute façon le père de Théodule saurait faire un sort à cet animal en attendant de retrouver son propriétaire. Après le repas, ils veillèrent 2 ou 3 heures avec le vieux Marval et la servante. On bavarda longuement. Seul Gaspard garda le silence. Le lendemain matin, Niklas et ses fils, menant leur break, partirent après avoir fait leurs adieux. On les accompagna jusqu'à la route qui descend sur la Meuse. Après avoir vu la voiture disparaître en cahotant, lorsqu'on eut échangé les derniers saluts, Gaspard et Théodule écoutèrent le bruit des essieux qui se perdit bientôt au fond des bois, puis ils revinrent à la ferme. « Ton train ne part pas avant 2 heures de l'après-midi. Nous avons le temps, » dit Théodule. Ils déjeunèrent vers 11 heures sans échanger beaucoup de paroles. Théodule ne se lassait pas d'écouter les moindres bruits. De temps à autre, il frappait son verre avec son couteau pour avoir le plaisir d'entendre le tintement. « Tu pourras maintenant écouter les carillons des beffrois, » dit Gaspard. Théodule était tout à fait changé. Il n'avait plus son air grave d'enfant livré à des responsabilités précoces. « D'ici, j'entends chanter les campeurs, » dit-il. Il avait retrouvé une voix ordinaire.
« Ça n'est pas possible, » dit Gaspard.
« Et même, J'entends grogner l'ours au fond du garage. »
Gaspard tendit l'oreille. Des chansons perdues dans l'air parvenaient à travers la fenêtre ouverte, mais pas le moindre grognement d'ours.
« Je vais téléphoner !» dit Théodule.
« Tu as un téléphone ?» s'exclama Gaspard.
« C'est la première fois que je m'en servirai !»
déclara solennellement Théodule.
« Mais à qui veux-tu téléphoner ?»«
À mon père !» Théodule ouvrit une petite armoire et décrocha le téléphone. Au bout de quelques instants, il pouvait souhaiter le bonjour à Emmanuel Rosidor. Gaspard attrapa quelques bribes de conversation.
« Ma surdité a cessé, » disait Théodule. « J'ai fait hier un tour dans nos bois avec la camionnette. Un ours nous a poursuivis. Il s'est élancé dans la camionnette. Nous avions ouvert les battants pour charger du bois. La camionnette est maintenant dans le garage.
« Oh non, l'ours ne bouge pas plus qu'une souche. »«
C'est entendu. Marval et moi nous emmènerons la camionnette à Chemis cet après-midi vers 3 heures. »
Quand il eut raccroché, il regarda Gaspard.
L'ours appartient à la ménagerie des studios. On l'avait laissé se promener dans la cour de la ménagerie parce qu'on le croyait tout à fait raisonnable et il a escaladé le mur d'enceinte. Marval et moi nous l'emmènerons tout à l'heure dans la camionnette. Tu viens avec nous ?
Non, dit Gaspard.
Mais il n'y a aucun risque, dit Théodule.
Il faut que je prenne mon train.
Nous reviendrons avant 6 heures. Il y a un autre train à 7 heures.
Nous reviendrons aussitôt, insistait Gaspard.
Nous reviendrons aussitôt, assurait Théodule.
Ainsi, l'on remet toujours naïvement l'heure de la séparation, comme nous l'avons maintes fois observé et comme nous le dirons encore. La séparation apparaît tellement fatale qu'il est doux de gagner quelques heures, et n'importe quelle histoire, si vous y songez bien, n'est jamais qu'une histoire de gens qui s'entretiennent, se querellent ou se saluent longuement pour prolonger leur réunion sur une terre où tout semble passager et où tout s'enfuit au fond du temps.
Théodule fit apporter une bouteille de vin de Moselle et lorsqu'ils partirent vers 3 heures, ils étaient pleins d'enthousiasme.
Ils songeaient, sans se l'avouer, qu'ils arriveraient à Chemis peu de temps après que Bidivert y aurait amené Hélène dans la grande voiture verte. Marval conduisait la camionnette. C'était lui qui parlementerait au bureau de la cité. Tout se passa comme on l'avait prévu. La voiture verte stationnait près de l'entrée des studios. Le vieux Marval conta l'histoire de l'ours au concierge qui était prévenu. Des coups de téléphone furent lancés d'un bureau à l'autre. Un employé vint vérifier la présence de l'ours. Il ne jeta qu'un coup d'œil à travers la lucarne de l'arrière. L'ours dormait.
Méfiez-vous, disait cependant Marval à l'employé. Tout à l'heure, il a manqué m'arracher la barbe, comme je voulais lui dire quelques mots par la lucarne. Il fait semblant de dormir et puis il s'élance. À chaque instant, il manque de défoncer le coffre.
C'est bien, dit l'employé. Suivez ce chemin. À 200 pas d'ici, on vous ouvrira une porte dans l'enceinte et vous foncerez tout droit dans l'allée. Ne prenez ni à droite ni à gauche. Il y a des allées en V qui pourraient vous tromper. À droite, vous verrez d'ailleurs le nom des studios sur les pancartes.
L'homme avait défilé ses recommandations à toute vitesse, car l'ours venait de remuer au fond du coffre. La camionnette franchit sans encombre la porte indiquée et s'avança lentement dans l'allée. On ne rencontra personne. Il semblait que l'alerte eût été donnée. Du côté de la ménagerie, on trouverait probablement un gardien qui réceptionnerait l'ours avec la plus grande prudence. Cette vague inquiétude que Marval avait inspirée donna au garçon une nouvelle idée. Ils avaient espéré peut-être apercevoir Hélène par un hasard. Maintenant, il semblait qu'une magnifique occasion se présentait à eux de circuler en toute liberté dans ces petites avenues au moins pendant quelque temps. Ils pouvaient se cacher et chercher Hélène dans le dédale des bâtisses. Cela ne mènerait probablement à rien, mais ils ne parvinrent pas à dominer leur premier mouvement. Gaspard serrait avec violence le bras de Théodule. À droite,
des hangars s'alignaient selon des directions obliques. Quelques pancartes. Studio Emmanuel, studio de la jungle et enfin studio Hélène. Ce fut devant cette pancarte que Théodule et Gaspard ouvrirent la portière et sautèrent tandis que la camionnette poursuivait lentement son chemin. Le vin de Moselle, songea Gaspard en retombant sur ses pieds. Le nom d'Hélène, que l'on avait inscrit tout récemment, leur semblait indiquer la présence de celle qu'ils cherchaient. Néanmoins, il n'était nullement nécessaire qu'Hélène se trouvât dans ce studio et ils se rendirent compte aussitôt qu'ils se fourvoyaient et qu'ils avaient commis une imprudence. Mais il était trop tard pour changer d'avis. Ils pénétrèrent sans hésiter dans un hangar. Là s'entassaient des mobiliers de toutes les époques, particulièrement des meubles de salon somptueux. Certains décors étaient plantés devant un espace réservé aux appareils de prise de vue. Deux chambrettes gracieuses et un vestibule de château avec des armures. Un employé, vêtu d'une blouse, était assis sur un fauteuil dans l'une des chambrettes. Il se leva pour venir au-devant de Gaspard et de Théodule qui firent demi-tour et regagnèrent la sortie. Ils coururent jusqu'au bâtiment voisin. L'homme ne les avait pas poursuivis. Dans cet autre bâtiment, une certaine animation régnait. Des machinistes s'employaient à monter des hauts décors que l'on disposait sur plusieurs plans. Les deux garçons se plaquèrent derrière des planches tandis qu'ils observaient les ouvriers. Là non plus, ils ne pouvaient pas espérer rencontrer Hélène. Ils employèrent 2 minutes à regarder les décors. Au premier plan, c'était un montage en carton représentant un désert de sable avec des buissons. Au-delà montaient des rocs et enfin un pic couvert de neige qui illuminait des projecteurs. Les deux garçons avaient eu tort de perdre un peu de temps. Ils entendirent la voix d'un haut-parleur.
« Deux garçons se sont introduits dans les studios, prièrent de fermer les portes et de les rechercher. »
Le magasinier avait dû signaler leur présence aussitôt qu'il les avait aperçus. Cette cité était une machinerie où les coups de téléphone ne coûtaient pas cher et vous traquaient plus sûrement qu'une meute de chiens. Gaspard et Théodule étaient tout juste revenus de leur surprise qu'un ouvrier se précipitait pour fermer la porte par où ils s'étaient introduits et leur barrait définitivement toute issue. Les autres machinistes, sur un ordre du contremaître, se hâtaient de vérifier si les garçons qu'on leur signalait n'étaient pas cachés dans quelque angle obscur du studio. Gaspard et Théodule s'étaient glissés entre deux décors. Ils pouvaient contempler au-dessus d'eux la haute montagne neigeuse qui brillait sous le feu du projecteur. Il aurait fallu que cette montagne fût vraie et allait se perdre dans les ravins de neige. On vint de leur côté. Les garçons se sauvèrent à tout hasard à travers la bâtisse tandis que les ouvriers criaient et se hêlaient pour les cerner derrière un autre décor. Gaspard et Théodule se glissèrent sous les charpentes. Ils parvinrent juste au bas de la montagne, qui était un énorme tableau suspendu à des cordes.
« On coupe les cordes !» dit Théodule.
Gaspard sortit son couteau et coupa une corde à tout hasard. Des poulies grincèrent. Le décor oscilla. Il coupa une autre corde et ils n'eurent que le temps de se garer tandis qu'un machiniste s'écartait lui-même avec des malédictions. Le décor tomba, fracassant des charpentes et crevant 2 fenêtres basses.
« La courte échelle !» dit Théodule.
Gaspard hissa Théodule jusqu'à l'une des fenêtres et Théodule, aussitôt qu'il eut pris appui, tira à son tour Gaspard. Ils sautèrent au dehors. Ils furent surpris de se trouver dans un étroit couloir. Devant eux s'élevaient de très hautes toiles dont ils n'apercevaient que l'envers. Ils suivirent le couloir et aussitôt découvrirent un léger intervalle entre les châssis par où ils se glissèrent. Ils s'avancèrent avec prudence et ils arrivèrent à l'extrémité d'une immense salle obscure où passaient d'étranges lueurs. Ils étaient sans aucun doute en plein cœur d'une des dernières créations d'Emmanuel Rosidor. Vers le haut, ils aperçurent bientôt de grands voiles que parcouraient de temps à autre les lumières des projecteurs. Ces voiles révélaient un ciel bleu avec des nuages blancs et noirs que striaient des éclairs.
C'est son fameux orage sur la jungle, souffla Théodule. Voilà 3 mois qu'il en parle.
Ici, du moins, on était coupé du monde extérieur et certainement Emmanuel Rosidor serait trop occupé à mettre en branle ses mystères pour souffrir d'être dérangé. Le ciel factice s'éteignit soudain. Alors, parmi les ombres, s'allumèrent des perspectives de forêt dont les troncs énormes et les lianes formaient des dessins d'un noir profond. Puis, à l'extrémité d'une sorte d'allée, une clairière apparut. Dans cette clairière, des hommes à demi nus tenaient des torches d'où s'élevaient de grandes flammes. Les deux garçons furent saisis d'horreur et peut-être seraient-ils restés là sans bouger si le pinceau d'un projecteur qui balayait un pan de la forêt de carton n'avait soudain éclairé 2 personnages. L'apparition ne dura qu'un quart de seconde, mais cela suffit pour que Gaspard reconnût Parpoil et Hélène. La fille était habillée d'un pantalon et d'une blouse, une blouse blanche sur laquelle retombaient ses cheveux qui brillèrent vivement sous le projecteur. Théodule enfonça son coude dans les côtes de Gaspard.
« Tu ne connais pas Parpoil, » souffla Gaspard. « Cet homme fera toujours le malheur d'Hélène, quoi qu'il advienne. »
« Il faut aller là-bas, » répondit Théodule, et tâcher d'attirer son attention.
Les garçons étaient décidés à tenter l'impossible avant d'être rejoints. On entendit un roulement de tonnerre, puis une voix, celle d'Emmanuel Rosidor.
« Un nouvel essai, je vous prie, avant de déclencher l'orage, et que les sauvages là-bas élèvent leurs torches aussi haut qu'ils le peuvent. »
Malgré ces ordres qui indiquaient le caractère anodin de la mise en scène, Gaspard et Théodule ne s'avancèrent pas sans frémir. Gaspard songeait aux anciens orages de l'homme inval. Tandis qu'il se dirigeait tant bien que mal entre des arbres de toile, de carton ou d'aluminium, un grand silence tomba. On faisait les derniers préparatifs avant la grande répétition. Nulle part on ne voyait de caméra ni d'opérateur.
« D'abord, créez l'ambiance !» cria de nouveau Emmanuel Rosidor.
Cette ambiance n'empêchait pas qu'il y eût des poutrelles qui traînaient en travers des arbres de la forêt vierge. Gaspard buta sur une poutrelle. Théodule ne put pas le retenir. Ni l'un ni l'autre ne savait où il se trouvait à ce moment-là. Un rideau de toile représentant des fougères arborescentes leur masquait la clairière sur laquelle ils s'efforçaient de se repérer. Gaspard tomba la tête la première dans la toile qu'il creva et il vint rouler juste à l'entrée de la clairière au moment même où se déchaînaient les premiers grands éclairs de l'orage. La voix d'un haut-parleur éclata.
« Saisissez ce jeune idiot !»
C'était la voix de Parpoil. Celle d'Emmanuel Rosidor lui succéda, plus dramatique.
Que tout le monde se jette sur le criminel qui s'est permis de troubler un tel spectacle.
D'abord, les assistants, les machinistes, les figurants et les acteurs étaient tous demeurés immobiles à leur poste, bien que personne n'eût manqué d'apercevoir le garçon qui s'était effondré au premier plan de la grande scène. Cela lui donna le temps de se relever. Théodule s'élança sur ses talons au moment où tous les personnages présents se mettaient en branle. Les garçons ne pouvaient pas revenir sur leurs pas. Ils contournèrent la clairière. Ils furent aussitôt serrés de près par les sauvages avec leurs torches.
« Les torches ! Les torches !» cria Emmanuel Rosidor dans le haut-parleur. « Seule la clairière est unifugée ! Ne l'oubliez pas !»
Des sauvages s'arrêtèrent brusquement, sauf l'un d'entre eux qui pouvait atteindre Théodule d'un instant à l'autre. Les garçons avaient réussi à se glisser dans une sorte de couloir de toile. Éclairés par la torche du sauvage, ils sautèrent par-dessus une poutre. Le sauvage n'aperçut pas cette poutre. Il buta, sa torche lui échappa et une grande flamme s'éleva soudain. L'incendie éclata en quelques secondes. Les événements qui suivirent ne furent pas extraordinaires comme Gaspard et Théodule s'y attendaient. Les figurants crevèrent les toiles, les papiers peints et renversèrent les panneaux pour s'écarter des hauts décors qui s'effondrèrent au milieu des gerbes d'étincelles. Gaspard et Théodule ne s'occupèrent qu'à détaler. Une sirène retentit. Des ordres furent donnés par haut-parleur, tandis que le personnel s'activait autour des bouches d'eau et s'occupait à dérouler des tuyaux. Les garçons tournèrent l'angle d'un bâtiment. Ils en suivirent l'autre côté. Comme ils parvenaient à un petit carrefour où se dressait un autre hangar, ils s'arrêtèrent brusquement. ils venaient d'apercevoir Hélène qui venait à leur rencontre.
« Ça n'est pas bien difficile de vous trouver, dit-elle, mais ils sont trop occupés pour se soucier de vous. Suivez-moi. »
Ni bonjour, ni rien. L'incendie s'élevait en longues flammes. On voyait déjà les jets d'eau des lances retomber au milieu des nuages de fumée.
« Un incendie pour rire, » dit Hélène en montrant le chemin.
Ils arrivèrent à une clôture. Les garçons ne parvenaient pas à prononcer une parole. Un peu plus loin, une porte de bois fermée par deux gros verrous.
« Derrière, c'est le ravin, » dit Hélène. « Maintenant, quand vous serez rentré chez vous, je ne garantis pas qu'on vous laissera tranquille. Vous vous défendrez comme vous pourrez. »
Théodule et Gaspard se regardèrent. Il pensait que peut-être il valait mieux ne rien dire à Hélène. Gaspard tira les verrous et la porte s'ouvrit en grinçant sur un talus qui descendait à pic. Au lieu de franchir la porte, les garçons demeuraient plantés devant Hélène.
« Je vais faire un bout de chemin avec vous, » déclara-t-elle enfin. « Vous avez l'air passablement ahuri. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans ce fichu décor ?»«
On te racontera. » dit Gaspard. Fin de la deuxième face de la huitième cassette. Le pays où l'on n'arrive jamais, par André Dautel, page 225.